dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans le panier. Premier panier du mois de juin. On attaque, on est tranquille. C'est le début, on a des belles températures depuis quelques jours. On va arriver l'été. Bon, déjà, on commence à râler parce qu'il fait trop chaud. Oui, on n'est jamais content. Mais on va se contenter de ce qu'on a. Alors, on a décidé de parler de livres. Des livres que j'ai lus au mois de mai. Et je vous parlerai à la fin de l'émission des livres que je vais lire au mois de juin. Alors, je sais, j'ai été un peu absente ces derniers temps. Mais alors, comment vous expliquer le lutin me dit « tu vieillis ». Tu commences à me fatiguer, toi. Problème de voix, extinction de voix, voilà, que des petits trucs qui faisaient que j'étais incapable de faire des émissions de radio parce que physiquement, c'était très compliqué. Et même pour vous, ça aurait été compliqué de m'entendre parler avec cette voix-là comme ça. Et c'était, j'ai bien refait. Ah, je vais me massacrer les cordes vocales. Mais il vient de me dire « parfait, c'est ça ». Voilà, j'avais cette voix-là, et en plus je toussais, à décoller toutes les membranes. Voilà, donc c'était très très compliqué, j'ai fait au mieux, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. On va recommencer nos petites émissions, et on va attaquer tout de suite en musique avec... Alors, la chanson, on a essayé de trouver des chansons qui vont avec... Enfin, qui pourraient coller avec les livres. Alors, la première chanson, c'est vachement... très facile, vous allez comprendre où on va, dans quel siècle on va et avec qui on va, puisque c'est Emmanuel Moir avec Être à la hauteur, sachant que la comédie musicale Le Roi Soleil revient. Ah oui, oui, ils reviennent, voilà. Et avec Emmanuel Moir, il y a un nouveau casting pour tout le monde, sauf lui, qui a repris son titre de Roi Soleil. Oui, on va... c'est un livre qui parle du siècle du Roi Soleil, oui, de Louis XIV. Allez, Emmanuel Moir, Être à la hauteur, et on se retrouve tout de suite avec le premier livre lu et vraiment bien aimé.
Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit, l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. C'est un devoir quotidien, un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Jamais en descendre
C'était donc Emmanuel Moire avec Être à la hauteur, et inutile de vous dire que le lutin a encore râlé puisque je n'ai pas arrêté de soupirer. Ce garçon a une voix qui me plaît beaucoup, outre le fait qu'il est très joli garçon. Oui, oh bah ça, il s'améliore bien. Alors, on va parler d'un livre qui m'a été recommandé par une de mes amies, qui s'appelle La Marquise des Poisons. Non, pas mon amie, s'appelle La Marquise des Poisons. Le livre s'appelle La Marquise des Poisons de Olivier Seigneur. Alors, c'est en livre de poche, hein, donc vous pouvez le trouver à peu près partout. Alors, on est évidemment dans la période de Louis XIV. Nous sommes en présence de Gabriel Nicolas de la Reynie, qui a réellement existé, hein, qui était issu du Limousin, voire ce qu'on nous on appellerait maintenant la Nouvelle-Aquitaine, et qui est devenu ce que l'on peut appeler, en fait, le premier flic de France, ou l'équivalent de l'époque, puisqu'il était responsable de la sécurité de Paris, au niveau policier, sous Louis XIV. Alors, Olivier Seigneur, en fait, nous offre un roman très bien rédigé et nous propose une histoire à la fois historique, avec bien sûr plusieurs enquêtes policières, avec une jolie documentation. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a des vrais personnages, forcément, puisqu'ils ont existé, hein, voilà, avec quelques fictifs, mais c'est tellement bien amené que quand il déforme un chouïa la vérité historique, il met une note de bas de page pour expliquer ce qu'il en est, ce qui est arrivé au personnage, au vrai personnage, etc., ou en tous les cas ce qu'il aurait pu éventuellement modifier pour, bien sûr, le bien fondé de son histoire. Alors, on parle ici de la fameuse affaire des poisons, de ces empoisonneuses célèbres, toutes exécutées, hein, à l'époque, et on va rencontrer donc plus ou moins tous ces personnages, avec bien sûr des ajouts romancés. On rappelle, c'est un roman, c'est pas une bio. Alors, petit à petit, les intrigues se posent, tout le monde se place correctement, c'est-à-dire qu'on est à la fois à la cour de Louis XIV, à l'époque jeune, enfin plus ou moins jeune, mais enfin en tous les cas dans la force de l'âge, sa maîtresse est Madame de Montespan, qui règne en maîtresse absolue sur le corps et le cœur du roi, et sur la cour en même temps, qui lui a donné plusieurs bâtards, mais qui trempe dans des affaires un peu louches, puisque en fait, il est dit qu'elle faisait concocter des philtres. Alors, amour, pas amour, machin, on verra bien, mais en tous les cas, c'était pas très... Oh bah, c'était pas très catholique, hein, non, non. Voilà, et elle essayait d'esquiver et de virer toutes les potentielles jolies filles qui tournaient autour du roi soleil. Tu m'étonnes que lui, jeune, il se ne privait pas, c'est-à-dire il était beau, enfin, il était pour l'époque. Si, mais, non, mais tu le vois, nous on le voit, alors le lutin m'a dit bof, bah non, tu le vois vieillissant. Jeune sur les tableaux, c'était un bel homme, pour l'époque, il faut replacer. Voilà, donc pour l'époque c'était un bel homme, en plus, roi soleil, Louis XIV, roi de France, riche, charmant, très bien éduqué, il savait danser, machin, etc. Vous imaginez bien que toutes les filles, elles tournaient autour de la bestiole. Enfin, il fallait quand même un minimum s'élever dans l'ombre. Montespan a fait ça, hein. Maintenant, la suivante aussi, donc voilà. Et en fait, on a droit à la fois à la vie intime de Montespan, entre guillemets, avec le roi, des intrigues à la cour, des traîtres, des cercles d'influence et de l'étiquette royale. Et de l'autre côté, on a l'enquête sur les poisons, sur les différents personnages qui sont intervenus, et le personnage de la Reynie, qui est à la fois très complexe parce que lui-même a un lourd secret et qui le fragilise d'ailleurs, et il a pas mal de soucis familiaux qui vont, on va dire, un, l'occuper, et deux, le mettre dans des... position un peu délicate, en bas c'est le moins qu'on puisse dire. Alors le fait qu'il ait l'oreille de Louis XIV aide. Voilà, alors c'est une très bonne lecture, très agréable, qui replonge dans les fastes de la cour, avec ce Louis XIV, on va dire jeune, volubile, empressé et assez royal quand même, et aussi dans les bas-fonds de Paris, parce qu'à l'époque il y avait un meurtre par jour, Il chômait pas, hein, le premier flic de France, avec toutes les réseaux des mouches, hein, qui étaient les espions de la police. Franchement, c'est très très bien foutu. Voilà, c'est vraiment, on passe de la cour à la... D'ailleurs, il est en train, Louis de XIV, de réaliser son Versailles, sa Galerie des Glaces, à vraiment les bas-fonds de Paris, les bordels, tout ça. Donc vraiment, c'est très très bien fait. Et puis en plus... Voilà, ce mélange d'histoire, d'enquête policière, tout en maintenant un bon contexte historique, mais en ajoutant des choses. Bien sûr, c'est une fiction, c'est un roman qui sont fausses. C'est très bien fait, voilà. Mais vraiment. Donc ça s'appelle La Marquise des Poisons de Olivier Seigneur. Il y a plusieurs enquêtes et je pense que vous en entendrez parler encore une fois, puisque franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc merci à mes potes qui me l'avaient grandement recommencé. Alors... Recommander. Oh là, oui, alors la voix est revenue, le cerveau, non. Oui, on est bien d'accord. Alors, ce choix-là, c'est le choix du lutin. Si vous aimez pas, c'est son problème. Non, c'est un très bon truc, mais j'aurais pas choisi celui-là. Tu vois, j'aurais pensé à Fever. Oui, puisqu'on est aux États-Unis. Ah ouais, je sais. Bon, bref, il a préféré Alain Chamfort, La Fièvre dans le sens... Tout est relatif là-dedans, pour parler d'un livre qui n'est pas un roman, qui est un livre documentaire. Et inutilement, c'est du gros niveau. On se retrouve juste après.
Je l'ai vue, j'ai su les ennuis qui m'attendaient. Elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie, même si pour ça le ciel ou l'enfer m'avalait. Elle est belle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui. Peut-être et encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle entre nous. Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme plus qu'obéissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Que l'amour en nous affaiblissant ne devient pas un jour un poison puissant.
La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'ai la fièvre dans le sang, le désir agissant comme un alcool puissant. Je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille
m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. Ma fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens.
Après Alain Chamfort et La fièvre dans le sang, on va parler d'un livre qui s'appelle Une poussière, une poussée de fièvre. Ouh, je baille, ah non mais je, voilà, il me faut un café, café. De Timothy Egan. Alors, Timothy Egan, en fait, on va retracer dans ce livre-là l'histoire du Ku Klux Klan. Depuis sa création sur les cendres de la guerre de sécession, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à sa première chute, assez rapide d'ailleurs, et puis sa renaissance et son influence alors tentaculaire pendant des décennies au début du 20e. Simplement, il va nous parler surtout, troisième partie du livre, de l'affaire Stephenson Oberholzer, puisque une certaine, qui va vraiment faire basculer hein, l'opinion publique américaine contre le Klan, puisque une certaine Marge Oberholzer, qui était une jeune femme assez ordinaire dans les années folles, qui a croisé la route du grand Manitou du Klan de l'époque, donc Stephenson, et qui a porté plainte sur son lit de mort contre lui pour avoir commis le fait de l'avoir enlevé, torturée vicieusement, violée et laissée pour morte. D'ailleurs, elle décédera des suites de ces tortures très vicieuses. Et c'est vraiment quelque chose d'assez révulsant qui l'ont amené à avoir un empoisonnement du sang. Vous pouvez imaginer ce qu'il a pu faire. Et donc, en fait, l'ouvrage détaille vraiment et documente vraiment la genèse de cette organisation raciste qui est ancrée dans la volonté de la supériorité d'une race, d'une couleur sur les autres. Et l'auteur s'appuie sur tout. Il s'appuie sur des témoignages, sur des articles, sur des documentaires, sur les minutes du procès pour décrire Stephenson, qui était un homme avide de pouvoir, d'argent, et qui, dès le début, même avant d'adhérer au Klan, était un prédateur sexuel, qui était violent envers les femmes, et surtout très influent, qui a eu une influence mais énorme. Et pendant des années, il va gravir les marches du Klan, va étendre l'influence de ce groupe dans toutes les couches de la société. Et pendant la première décennie du XXe siècle, le Klan frôle tous les pouvoirs, politiques, judiciaires, sociétals. Il fait régner la terreur. D'abord, il embarque les gens dans la douceur, en aidant les gens, en donnant des petites choses, en aidant pécuniairement certaines personnes. Puis, quand ça marche moins, il fait régner la terreur. Et il s'opposait systématiquement à tous les droits les plus élémentaires, on va dire, de certains citoyens américains, qu'il jugeait complètement indignes, comme l'ensemble du groupuscule, puisqu'il faisait la chasse aux Noirs, aux Catholiques, aux Juifs. Comme ça, au moins, ça c'était établi. Alors, il y a une très longue première partie, très documentée, très détaillée, qui est nécessaire pour comprendre les rouages de cette hégémonie, de leur pensée, qui s'est mise insidieusement dans toutes les strates de la société, et qui, en fait, par la menace, la peur et un racisme assez primaire, et ça peut avoir des échos avec notre époque actuelle, montre, en fait, comment la société actuelle américaine s'était fracturée à l'époque et est toujours un peu fracturée. Alors, le livre peut révolter, vraiment révulser certains lecteurs et lectrices, tant les actes sont odieux, les pensées nauséabondes, mais ça, je pense que tout le monde sait à peu près les pensées du Klan. Mais vraiment, l'histoire de cette jeune femme qui a fait tomber, chuter le grand Manitou, etc., ça explique vraiment le mal profond. Qui peut ressurgir à tout moment si on ferme les yeux et qu'on veut gommer le passé, et on le voit actuellement, et c'est jamais une bonne chose d'oublier ou de faire semblant de pas voir. Et surtout, c'est un livre qui explique le cheminement d'un mouvement de pensée qui va essayer de récupérer tout le monde. Et on voit en certains endroits du monde actuellement qu'il y a des groupes qui essayent de faire à peu près la même chose. Bon, ils n'ont rien inventé, le clan l'a fait, les nazis l'ont fait, donc voilà. Mais bon, ben, ça marche toujours visiblement, hein, voilà. Alors, c'est un livre glaçant, je vous assure, mais utile et nécessaire. Attention, ça peut choquer ou heurter des âmes sensibles, parce que honnêtement, les descriptions des minutes du procès sur les tortures de cette jeune femme, c'est quand même, y compris ce qu'il fait à d'autres, c'est quand même pas un moment de grand plaisir, hein, on est bien d'accord. Donc ça s'appelle Une poussée de fièvre de Timothy Egan. Honnêtement, si vous voulez vous intéresser à l'histoire des États-Unis et que vous vous intéressez à peu près à ce qui s'est passé, pourquoi la société s'est fracturée grandement et continue à avoir plusieurs entités comme ça, et pas aidée par les dirigeants actuels, pas vraiment aidée, non. C'est un très bon livre, voilà. Alors, on fait une petite pause qui va être plus fashion, mode. Et après, on part sur du... Alors, léger, non, mais plus... Soyeux, vous allez voir pourquoi. Allez, Madonna, Vogue, et on se retrouve juste après. What are you looking at? We'll be right back. Après le Vogue de Madonna, on va parler d'un livre régional, parce que toute cette année, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de l'année, mais toute cette année, j'ai décidé de lire un roman, ce qu'on appelle régional, de terroir, voilà. Alors, certains d'auteurs que j'avais déjà lus et que j'aime beaucoup, d'autres qui m'ont été recommandés par les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit « Ah ben tiens, tu devrais lire celui-ci parce que ça parle de ma région, etc. » Et au programme du mois de mai, c'était « La Gantière » de Daniel Croze. Alors, je vous invite à lire Daniel Croze, qui est un grand amoureux de son Aveyron, vraiment, et qui fait des très jolis romans, avec des très belles bases historiques, sur des corps de métier, sur des moments d'histoire, toujours liés à son Aveyron, mais avec des personnages intéressants. Alors là, nous sommes avec Alice, qui a pour ambition, en ce début du XXe siècle, pour une fille de paysans qui sont quand même pas très très riches, hein, bon, début du XXe siècle, Aveyron, hein, on est bien d'accord sur la question, ça roulait pas sur l'or. Elle veut, en fait, devenir gantière à Millau, puisque c'est un haut lieu de fabrication de gants. Et au début du roman, elle travaille dans les caves de Roquefort, donc dans l'Aveyron, elle s'y plaît pas, d'ailleurs elle est renvoyée, et elle va partir à Millau, chez une de ses tantes, contre l'avis plus ou moins de son père, parce qu'elle a une ambition. Un, elle veut être gantière, deux, elle veut faire partie des notables, elle veut faire partie de ces personnes qui sont admirées pour leur talent. Alors, sa tante va l'introduire dans une fabrique de gants, elle va apprendre au contact de son patron, qui est un homme bon, des ouvrières qui vont devenir ses complices, entre guillemets, ses professeurs, les rouages de la ganterie. Elle va comprendre comment certaines intermédiaires se sucrent au passage à l'époque, même à l'époque, etc. Mais elle ne la satisfait pas. Elle veut être son propre patron, elle veut créer ses propres pratiques. Patron, elle veut fournir des vrais gants, des meilleurs gants, avec les plus belles peaux possibles, de travailler les peaux avec les meilleurs. Et en fait, par un concours circonstance, elle va partir aux États-Unis, puisque son patron a un comptoir à New York, et se retrouver à vivre avec des gantiers et gantières, tous exilés d'ailleurs de l'Aveyron presque, et elle va y rencontrer Octave, qui va partager non seulement au début son amour du travail très bien fait, mais aussi l'amour tout court. Alors, ils vont, de leur rencontre et de leur retour en Aveyron à Millau, Daniel Croze raconte l'ascension sociale de ces deux jeunes gens, entre anticipation d'une cette femme qui prend son destin en main, qui fonce et qui force, hein, les portes, elle est quand même bien rentre-dedans, mais qui décide et qui atteint son but d'être la meilleure gantière de Millau et même au-delà. Alors évidemment, comme tout roman régional, il y a la vie quotidienne, il y a l'amour, l'amitié, les enfants, les coups du sort, et puis l'histoire sous-jacente, hein, puisque c'est le début du XXe siècle, vu jusqu'à pratiquement le milieu du XXe, donc évidemment avec les guerres, les épidémies, les crises, etc. Et Daniel Croze, il possède cette écriture très légère, très agréable, très addictive, et il y a un très joli aussi thématique sur les parents qui vieillissent, comment les personnes anticipent le vieillissement de leurs parents, et comme quoi, même au début du XXe, tout le monde se posait aussi la question. Alors on tourne les pages, on veut savoir la suite des aventures de Alice et de ses proches, et on découvre, bien sûr, outre le fait de l'histoire et de l'Aveyron, mais aussi on découvre l'activité artisanale, les avancées techniques et les créations qui vont en découler dans le milieu de la ganterie. Voilà, alors il y a juste les 50 dernières pages que j'ai trouvées un tout petit peu trop étirées, mais vraiment c'était très agréable de se retrouver en plein milieu de l'Aveyron, en plein milieu des gants, avec les histoires locales et avec des personnages, je vous dis, avec il a vraiment une plume très fluide, très agréable. Et il nous détaille vraiment les conditions rudes, exigeantes de ces employés, de ces artisans, de ces créateurs qui n'avaient pas toutes les avancées techniques de l'époque, mais qui fournissaient des très très belles réalisations. Voilà, ça s'appelle La Gantière de Daniel Croze. C'est édité chez Rouergue, hein, vous pouvez le trouver en poche, donc pourquoi pas. Allez, on fait une petite pause musicale. Et ensuite, on enchaîne avec un dernier roman et la pile à lire de juin. Petit intermède, oh bah celui-là c'était évident. Voilà, quand je l'ai dit au lutin, lutin m'a dit oh non, pas encore. J'ai dit bah oui, encore, puisque vu ce dont on va parler, ça me semble assez évident. Michel Sardou, Vladimir Ilitch. Ah bah oui, bah il y a comme qui dirait un petit rapport quand même. Ah si, oh, si un gros quand même.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés chemin de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard? Rien n'a changé. Les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme. Viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répand la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Thank you.
après Vladimir Ilitch, on va parler d'un livre qui s'appelle tout simplement « Le rouge et le blanc ». Alors oui, vous allez me dire « Hein ?» mais quoi, de quoi ? Alors, on est là vraiment dans un... Comment dire ? On est dans la Russie tsariste au début du roman. Puis après, avec les prémices de la Russie, de la Russie soviétique bolchevique. Voilà. Alors, c'est un roman qui s'ouvre par quatre personnages que l'on va suivre d'ailleurs très régulièrement, qui sont deux frères, premièrement, on va dire deux aristocrates, deux nobles, Alexei et Ivan, qui sont élevés en même temps que Kolia et Natalia, qui eux sont les enfants de l'employé de maison. Et en fait, au début, c'est, même s'ils ont des caractères très très différents, ils sont complices de jeu, ils s'aiment beaucoup, etc. Alexis est très loyal au tsar, à sa famille. Il est assez fascinant comme personnage. Ivan, lui, c'est carrément le révolté de la fratrie. Il croit aux idées révolutionnaires. D'ailleurs, il affronte leur père, qui est quand même un noble impérial, enfin, qui fait partie de la cour impériale, en citant des discours de Trotsky. Pas le meilleur moyen. Voilà. Et Kolia et Natalia, qui, eux, en fait, ont épousé les idées bolcheviques qui commencent à fomenter à partir de 1905. Ça trouble un peu tout le monde. Mais ils sont jeunes. Ils sont dans leur début de leur adolescence, etc. Et évidemment, les trois garçons ont un intérêt certain envers Natalia. Alors, Kolia, c'est sa sœur. Donc, évidemment, il la défend. Et les deux autres garçons, les deux frères, sont un peu amoureux d'elle. Voilà. Et on va les suivre de 1905, aux prémices début de la première révolution, jusqu'à l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale, et lorsque la révolution de 17 va arriver et va littéralement faire vaciller et séparer ces quatre-là, parce que Ivan, Kolia et Natalia vont épouser l'esprit bolchevique, vont plonger dans les affres de la redoutable Tchéka. Hein, ah bah nos amis, la Tchéka, c'est l'ancêtre du KGB, du FSB, hein, en gros, hein, voilà. Donc vous vous imaginez bien, et qui rivalise d'esprit bolchevique pour faire avancer les idées rouges, d'où le rouge. Et de l'autre côté, vous avez la Russie blanche qui, à la suite de la chute de Nicolas II, l'empereur de Russie, va tenter à un moment donné d'affronter les révolutionnaires pour reprendre le pouvoir ou en tous les cas rétablir certaines choses. Et Alexei, lui, il reste fidèle à cette doctrine, même s'il n'est pas foncièrement tsariste, mais il estime que c'est une bonne chose. Et il va se retrouver face à son frère, qui est déjà une belle tête pensante de la Tchéka, et qui ne va pas du tout hésiter ni à le torturer, ni à l'envoyer dans les premiers goulags. Et de là, Harold Kober, donc ça s'appelle « Le rouge et le blanc » de Harold Kober, va nous dresser un roman fleuve, une sorte de « La guerre et la paix » version URSS. Alors, c'est pas Tolstoï, hein, on est bien d'accord sur la question, attention. Bah, n'est pas Tolstoï qui veut. Hein. Voilà, c'est pas non plus la pavasse de Tolstoï, parce que les autres, c'est carrément... ça cale des portes. Hein. Mais très intéressant, si vous n'avez pas vu Tolstoï, il faut lire « La guerre et la paix » au moins une fois dans sa vie. Hein, voilà. Mais c'est très agréable à lire, parce que ça mêle histoire, la vie des personnages. Alors, les rebondissements sont... Honnêtement, attention, c'est un roman fleuve, hein. Donc c'est très facile à repérer, vous savez ce qui va arriver. C'est pas inintéressant, même si les deux révélations de la fin, franchement, c'est très très gros et très tiré par les cheveux, mais on voyage entre 1905 et jusqu'au début des années 60, avec le destin de ces quatre enfants du siècle, on va dire, dans un pays qui est ravagé par les pouvoirs en place, que ça soit l'autoritarisme du tsar, que ça soit le fascisme, que ça soit le bolchevisme, que ça soit les complots, les tueries de masse, hein, merci, voilà. Et avec tout ce cocktail, en fait, Le rouge et le blanc est un roman qui se lit très bien, très vite. Vous n'avez pas besoin de grosses connaissances en histoire, parce qu'en fait, l'auteur explique très explicitement toutes les soubresauts historiques très régulièrement. Alors moi, j'ai passé, je vous dis, un très bon moment, vraiment. J'attendais pas plus que ce qui était expliqué dans le résumé. Voilà, donc je me suis pas dit ça y est, c'est un Tolstoï, c'est un truc, non, voilà, c'est un truc, vous le lisez, c'est agréable, et puis vous l'oubliez, mais c'est très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé les personnages d'Alexei et de Kolia, vraiment, même si les 50 dernières pages m'ont paru très longues, étiré, justement à cause de ces deux révélations qui sont trop grosses. Ivan m'a énervé dès le début et Natalia est la typique femme fatale russe qui peut être une plaie quand même dans la lecture, mais voilà. Alors, c'est une saga. Si vous aimez les sagas avec des thèmes qui sont légèrement vus ailleurs, qu'on a vu dans les films, qu'on avait vu dans les séries, qu'on avait vu dans les livres, mais qui revient sur le tourbillon des années 10, 20, 30, 40, dans cette Europe déchirée, brisée à tout point de vue, et dans cette Russie, et URSS, mais Russie démantelée et mise sous tutelle de la peur et de la terreur, parce que, voilà... eh bien, écoutez, vous pouvez lire Le Rouge et le Blanc, voilà, ça vous fera passer un bon moment, je pense, sur la plage, à la campagne, où vous voulez. Mais je vous dis, ça peut vous apporter certaines choses que vous ne connaissiez pas. Voilà. Ça, c'était les livres lus en mai et d'ailleurs en avril, puisque c'était fin avril, Le Rouge et le Blanc. Et on va passer juste... Bah, écoute, on va se mettre une petite chanson. Oui, on va essayer. Oh, c'est Just, hein. Ah ouais, il est en train de me dire, ah, c'est Just. Écoutez... On va le faire vite, on va passer Isabelle Aubray, La Montagne, et on va vous citer au moins La Pile à lire de juin, voilà, en vous disant deux, trois trucs, et puis comme ça, on finira avec une chanson qui est de circonstance. Oui, allez, Isabelle Aubray, La Montagne.
Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille de perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette, mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, ils sont en vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leurs filles, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Attention, c'est à vous.
On va parler des livres de juin assez rapidement. Un, le livre régional, ça sera L'Orange aux girofles de Roger Béteille, qui va se passer vers 1913 avec la vie de trois femmes d'âges différents qui vont devoir affronter la Première Guerre mondiale et donc forcément reprendre les travaux, ou en tous les cas la place des hommes qui partent au front. Deuxième livre, Outre-Monde, de Don Dilelio. Alors, inutile de vous dire qu'il traîne dans mon carnet de lecture depuis 1999. Ça, oh là. En fait, c'est vraiment la chronique de vie ordinaire. C'est vraiment un demi-siècle de l'histoire américaine qui part dans l'étau de la guerre froide, voilà, de l'histoire de la bombe atomique jusqu'à ce match de baseball mythique à New York de 1951. Voilà, donc c'est vraiment un demi-siècle de l'histoire américaine. Ensuite, je vais lire Chagrin d'un chant inachevé de François-Henri Desserable. Alors, j'adore cet écrivain qui est publié chez Gallimard à chaque fois. Il nous avait emmené en Iran la dernière fois. Là, il nous amène de Buenos Aires, j'allais le prononcer à l'espagnol, Buenos Aires à Caracas. Oui, il embarque sur une moto. Oui, qui fait du stop et du bateau avec une seule contrainte. Oui, vous avez compris. Emprunter l'itinéraire qui fut celui de Alberto Granado et d'un certain Ernesto Guevara, oui, El Che, lors du fameux voyage à motocyclette qui s'est passé 65 ans plus tôt et dont un très bon film avec Gaël Garcia Bernal a été tiré qui s'appelait Carnet de route. Ensuite, je vais lire Juno et Legs de Carl Gerry. Alors, c'est deux gamins dans les Dublins de 1980, avec véritablement au milieu d'une pauvreté et de familles complètement dysfonctionnelles. Écoutez, ils vont s'y lier d'amitié, je ne veux pas en savoir plus, mais voilà, quand j'avais vu le petit résumé, je m'étais dit « Oh, ça c'est pour moi !» Ah bah oui, Dublin, ah bah on est bien d'accord. Ensuite, je vais lire « La montagne dans la mer ». De Ray Neyer, qui m'a été recommandé par une de mes amies. Alors, c'est quelque chose qui est assez particulier. Il y a un mystère avec des... Il y a un mystère dans les hauts fonds d'un archipel, pas loin du Vietnam. Et voilà, il y a des créatures sous l'eau, etc. Ça parle de pieuvres, machin. Je veux pas savoir plus, mais voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et ça peut être pas mal. Et ensuite, je lirai Une fratrie de Brigitte Rehmann, qui m'est recommandée par mes potes allemands depuis je ne sais pas combien de temps. Me gavait ça. Alors, on est en fait avec l'histoire d'une jeune peintre qui s'appelle Elisabeth, qui apprend en 1961 que son frère Ellie va passer à l'ouest. Oui, on est dans l'Allemagne Est-Ouest. Et donc, elle travaille comme d'autres artistes pour l'État de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, donc de la RDA. Et en fait, elle refuse que son frère parte. Et elle dispose de 2 jours, en fait, avant qu'il ne veuille partir, enfin qu'il puisse partir, pour le convaincre de rester. Voilà. Donc, on m'a dit que c'est un très très beau roman. Donc, écoutez. Voilà. Donc, ça sera les livres, évidemment, du mois de juin, sachant que je relis George Sand depuis le début de l'année dans la Pléiade. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je lirai au mois de juin. Le mois dernier, j'ai relu Elle et lui, qui est toujours aussi magnifique. Bon, écoutez, c'est la plume de George. Voilà. Allez, c'est fini pour l'émission de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des petites choses à lire, peut-être à vous faire une petite pile d'été, ça va être sympa. D'ailleurs, je vous ferai une pile estivale avant de partir moi-même pour l'été. Et puis, comme ça, ça vous permettra peut-être de trouver quelque chose à vous ruer dans les librairies ou les médiathèques de votre coin. Allez, on se quitte avec une chanson de circonstance. Ah bah si, c'est une chanson de circonstance quand même. Voilà l'été des négresses vertes. Oh si, quand même. Bah c'est voilà l'été quand même, on y est presque. Oui, officiellement c'est dans quelques semaines, le lutin, tu as raison. Mais vu les températures et vu le soleil, hein, bon après on va croiser les doigts pour pas qu'il nous arrive des tuiles, c'est-à-dire que généralement on commence bien, puis après c'est... Voilà, mais pas de canicule. Voilà. Du bonne température, 28, 29, 30 la journée et 17, 16, 17 la nuit, ça serait bien. Pour tout le territoire, ils seraient contents parce qu'il y en a certains qui se sont pris des tonneaux d'eau, ils se prennent des trucs moches et il y en a qui ont trop chaud de l'autre côté. Donc voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles. Vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, écoutez, un MP3. Non, ah non, on a décidé de faire deux paniers. La semaine prochaine, c'est un panier spécial série et films que j'ai vus. Et je peux vous assurer qu'il y a du très, très lourd. Ah bah, il y a du lourd, il y a des coups de cœur, il y a des emballements. Lisa va être insupportable. Allez, les négresses vertes, voilà l'été. Ciao.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été. Enfin l'été, mais y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À des doigts qui s'expriment violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.